soir, le gouvernement a supprimé 38 taxes perçues dans le secteur fluvial et lacustre en RDC. Dans un arrêté interministériel signé le 19 juin dernier, il les juge illégales et affirme qu'elles ne peuvent plus être réclamées aux armateurs et tenanciers des ports en RDC. Quelle analyse faire de cette initiative du gouvernement? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Daniel Boulungui, du conseiller fluvial et lacustre du ministre des Transports et Voies de communication du gouvernement central. Monsieur le conseiller, bonsoir.
Bonsoir.
Didier Mukoma, président du comité professionnel des transporteurs fluviaux à la Fédération des entreprises du Congo. Monsieur Mukoma, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Marie Bakoumania, directeur de la rédaction en charge de l'économie et de l'investigation au groupe de presse Média 7. Bienvenue Marie Bakoumania, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je le disais dans le sommaire, 38 taxes perçues dans le secteur lacustre fluvial viennent d'être supprimées par 9 membres du gouvernement dans un arrêté interministériel signé le 19 juin dernier. Ils jugent ces taxes illégales et ces dernières ne peuvent désormais, sous aucun prétexte, souligne l'arrêté, être réclamées aux armateurs et tenanciers des ports en RDC. Jacques-Yves Molima.
Parmi ces taxes, 10 étaient perçues par le commissariat fluvial. La taxe de demande d'autorisation de chargement et de déchargement, la taxe de visite de partance, des visas d'arrivée et de départ, même la taxe sur les heures supplémentaires. 8 autres taxes étaient perçues par la DGM pour des formalités de départ et d'autorisation de départ. Il y avait aussi la taxe achat autorisation déplacement interportuaire d'un bateau. Pour qu'un bateau change de port, il y a une taxe à payer. 5 par la DGDA, c'est encore la taxe de demande d'autorisation de chargement et déchargement. Et la taxe de déclaration marchandises. Les FRDC et la police avaient aussi leurs taxes. Des frais achats bulletins de contrôle mouvement, taxes sur la feuille de route et frais assistance. Il y avait des spécificités des provinces, comme au nord et au sud Kivu. Il existait une taxe de circulation routière sur les unités flottantes. En d'autres termes, des bateaux qui devaient payer des taxes de circulation routière. Par ailleurs, toutes les provinces faisaient payer la taxe sur les produits agricoles. Enfin, même le tourisme et Sokoda avaient droit à des taxes sur le fleuve et les lacs. Ce sont les taxes de fonds de promotion touristique et les frais des sociétés congolaises des droits d'auteur. Sans fondement légal ou encore redondant avec d'autres perceptions malgré leur légalité, on le constate, ces taxes sont ainsi supprimées. Sauf que ce n'est pas l'unique secteur pollué par des taxes en RDC.
Merci Jacques-Yves Molima. Daniel Boulungui, vous êtes conseiller fluvial et lacustre du ministre des Transports et Voies de communication du gouvernement central. Monsieur le conseiller, commençons par les motivations. Quelles sont les motivations qui ont poussé à la suppression de ces taxes?
Le secteur fluvial et lacustre, c'est un secteur qui est peu connu et peu exploité dans notre pays. Quand vous regardez en ce qui concerne le taux de circulation de nos bateaux sur ce fleuve et les affluents, c'est vraiment très limité. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'attraction au niveau du secteur privé. Et c'est comme ça que cette redondance, ces coûts d'exploitation qui est très élevé, après analyse constatée ensemble avec des armateurs qui sont réunis autour du CPTF, Comité professionnel des transporteurs fluviaux au niveau de l'AFEC, on s'est rendu compte qu'il est vraiment gangréné par plusieurs maux. Et notamment, vous avez la tracasserie. Et ces tracasseries qui ont fait l'objet de plusieurs concertations ensemble, même au niveau en 2012, aux états généraux de navigation qui avaient été organisés sur financement des programmes, des projets multimodaux de transport, on avait fait allusion à cela. Il fallait maintenant en principe trouver des solutions éventuelles pour pouvoir régler cette histoire. Donc cette tracasserie, même ça fait l'objet de plusieurs réunions convoquées par le vice-premier ministre, ministre de budget. Le premier ministre en a fait l'objet aussi de larges instructions pour pouvoir essayer de régler une solution dans ce sens. C'est comme ça que finalement, ensemble avec les armateurs qui étaient prêts déjà à pouvoir monter une grève grève pour essayer de sécher pratiquement l'exploitation de ce secteur. On s'est retrouvé ensemble autour d'une table pour essayer de discuter, voir quels étaient les problèmes réels. Et lors de tous ces travaux qui ont eu lieu pratiquement durant près d'un mois, au mois de mars, février, mars, avril, nous sommes retrouvés pour essayer d'identifier, et on en avait identifié ensemble avec les propos des amateurs, 5 à 9. On a dénombré 5 à 9, on a analysé leurs fondements juridiques, on a analysé leurs opportunités, on a analysé leurs redondances pour voir si effectivement on pouvait encore les conserver. Et c'est ce qui a abouti au terme de ces travaux, un rapport qui avait été adressé au gouvernement pour voir un peu comment on pouvait arriver à les supprimer. Parce qu'on a retrouvé, comme vous l'avez dit, monsieur le journaliste, des taxes comme Sokoda, ou taxes comme des taxes sont perçues au niveau de la DGDA,
les FARDC.
On s'est retrouvé même avec des taxes qui doivent être perçues par les services de quarantaine. Ou le service de quarantaine, c'est un service qui est installé au niveau d'importation de frontières. Donc tous ces taxes ont fait l'objet d'un endommagement, analyse, et pour voir leur opportunité, leur redondance et leur base juridique. Et on a porté ce rapport au niveau du gouvernement qui s'est réuni autour de l'ECOFI pour essayer d'analyser quelle est l'opportunité de prendre une décision qui a abouti à cet arrêté interministériel qui a été signé le 19 juin.
Alors plusieurs personnes ont salué cette action, monsieur le conseiller, mais il y a des auditeurs comme Gracie Mongo Manzongo qui nous écrit de Mbandaka à l'Équateur, qui pose la question de savoir ça fait combien de temps que ça existe et qui avait autorisé toutes ces taxes.
Bon, ces taxes existent, les amateurs sont là, ils peuvent peut-être nous appuyer parce que ce sont eux qui nous ont saisis officiellement au niveau du ministère des Transports. C'est ceux qui ont décrié le fait, bien sûr. Avant même ça, il y avait des études qui avaient été menées déjà lors même de cet état général qui avait été organisé en 2012, en août 2012. On avait déjà fait état par une étude menée par le groupe d'études des transports. Et un prélèvement, des dénombrements étaient autour de 162 perception et taxes. Donc, tout confondu, 162.
Et donc, n'importe qui peut se lever un bon matin,
c'est ça. Sans base juridique, sans même un arrêté, sans une ordonnance, tout ça, 162. Évidemment, avec le temps, ça s'est amenuisé jusqu'à ce que les réunions qui ont eu ensemble, que nous avons eu ensemble avec le comité professionnel, qui ont pratiquement l'état de fait, l'état des lieux est présent, qui nous ont amené à dénombrer 59 prélèvements et taxes sur ce secteur qui était illégalement perçu.
Et donc, à bien comprendre, ces taxes étaient purement fantaisistes.
C'était fantaisiste, c'est-à-dire qu'un bon matin, la DGDA se retrouve avec les agents de la DGDA se retrouve sur le secteur, ils mettent en place un bordereau et puis ils commencent à percevoir cela sans pour autant maintenant que nous puissions être informés. Mais nous avons eu toutes ces informations à partir du travail que le CPTF, les amateurs ont produit et qui nous ont transmis, qui nous ont permis à comprendre réellement comment le secteur était gangréné par ces prélèvements.
Alors Didier Moukoma, vous êtes président du comité professionnel des transporteurs fluviaux à la Fédération des entreprises du Congo. Certainement vous saluez cette mesure, mais comme dit le conseiller, comment sommes-nous arrivés à ça?
Merci beaucoup. Comme vous le constaterez, vraiment, il s'agit d'un sentiment de satisfaction. Nous avons tellement un grand plaisir pour avoir réussi cette mission que nous avons commencée depuis longtemps. C'est un problème qui date depuis longtemps, vers les années 97, jusqu'à aujourd'hui, malgré nos plaintes, nous n'avons jamais eu l'occasion d'avoir un ministre à la tête de ce secteur qui pourrait nous aider à avoir les solutions.
Et donc tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 97 ont laissé faire?
En tout cas, depuis 97, nous n'avons jamais eu un gouvernement qui s'était donné la peine, en tout cas, de trouver des solutions à nos problèmes. Donc, toutes ces taxes existaient informellement, mais nous avons posé des problèmes plusieurs fois. À chaque ministre qui venait, il n'y avait jamais eu de solution. Mais cette fois-ci, quand même, nous avons trouvé une solution, malgré que il s'agit d'une partie des taxes qu'on a supprimées. Je pense que c'est déjà un grand pas. Et ça demande déjà qu'il y a un cadre de dialogue entre les gouvernements à travers les ministères des transports et les opérateurs économiques du secteur des transports fluviaux.
Alors, ces taxes sont fantaisistes, comme disait le conseiller. Il suffit même de voir la nomenclature, taxe visa de voyage. À première vue, ça ne veut presque rien dire. Taxe provinciale sur les produits agricoles, lettre des maires sur les unités flottantes d'immatriculation congolaise, taxe visite de partance, taxe visa à arrivée. Dites-nous un peu, quel est le quotidien d'un armateur congolais? Comment ça se passe? Vous percevez combien? Vous payez combien avec toutes ces taxes, par exemple?
C'est vrai, quand vous voyez toutes ces taxes, à chaque taxe aussi correspond un service. Ce qui fait qu'un armateur, avant même de commencer les travaux, donc avant de commencer les chargements, vous remarquerez qu'il y a des opérations qu'il doit réaliser. Donc il doit passer d'à chaque service tel que la direction de la marine, le commissariat fluvial, la DGM, la force navale, il y a l'ANER, il y a la DGDA, donc qui est un service qui s'occupe de la douane, pour demander une autorisation de chargement. Après avoir acquis une autorisation de chargement...
Qui coûte à peu près combien?
Ça dépend des services. À la DGDA, vous allez payer c'est entre 10 et 20 dollars. Chez le commissaire fluvial, c'est 50 dollars. Vous arrivez à la force navale, bon, c'est à peu près 10 dollars. Donc, ça dépend des services. À la police aussi, police fluviale, on paye aussi une autorisation, donc... Ça dépend de chaque service.
Alors, s'il faut comptabiliser toutes ces taxes, ça fait à peu près combien qu'un armateur dépense?
En termes de voyage, on nage entre 4 à 7 000 dollars.
4 à 7 000 dollars?
7 000 dollars.
Et vous, vous gagnez quoi dans tout ça?
Vraiment, c'est compliqué. On n'arrive pas à gagner. C'est pour cela nous sommes plaints. Parce que si on arrivait à gagner, on n'allait pas se plaindre, on allait laisser passer. Donc, on n'arrive pas, on ne se retrouve pas. Donc, ça coûte tellement cher.
Et c'est un peu hallucinant. Il y a même Mahamba Souzi de Kinshasa qui dit donc qu'il s'en passe des choses dans notre pays. J'ai du mal à croire que n'importe qui peut s'ériger en percepteur des taxes au nez et à la barbe du gouvernement sans l'aval de ce dernier. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Chacun se réveille.
C'est comme ça parce que vous savez, dans des ports, il y a toutes ces taxes-là qui ne sont pas canalisées. Donc ce sont des taxes qu'ils perçoivent et en fin de chaque journée, ils se les partagent. Ce qui fait que tous les services, c'est chacun qui demande un ordre d'émission à son chef pour aller s'installer dans un port. Et quand ils perçoivent toutes ces taxes, à la fin de la journée, ils se les partagent. Donc ce sont des taxes qui ne seront pas contrôlées.
Et dans l'interview que vous avez accordée ce matin à Radio Okapi, ce que vous redoutez, c'est plutôt l'application.
Je sais pas, là, c'est un problème qui se pose aussi. C'est comme je l'avais dit tout à l'heure, il se pose aussi un problème de la mise en application. Donc il faut qu'il y ait un suivi au niveau des autorités. Toutes les autorités qui ont pris part à cette décision doivent aussi quand même s'impliquer de façon qu'il y ait une mise en application effective. Nous avons constaté déjà, ça pose déjà problème au niveau, par exemple, de certains services, tels que le service de l'agriculture. Au niveau de la province, ils sont en train de percevoir une taxe qu'on appelle taxe d'agriculture, donc sur expertise. Mais or, cette taxe d'expertise, c'est une taxe qui est perçue à l'importation et à l'exportation. Sur l'expertise, disons, de plantes végétales ou bien des animaux. Mais ici, vous remarquerez qu'ils sont installés pour percevoir si le produit qui vient sur le bateau. Et ce qui est aussi grave, si cela est réel, normalement, cette taxe devait être perçue aussi sur le produit qui vient par camion, par route. Mais vous remarquerez qu'il s'agit de produits qui viennent seulement par bateau. Parce que le même produit, par exemple, dans la province de Bantundu, ce même produit peut venir par bateau, tout comme il peut venir par route. Mais vous remarquerez que les mêmes produits qui sont venus par bateau sont taxés de cette taxe de l'agriculture, et tandis que ceux qui sont venus par route ne sont pas taxés. Voilà.
Et donc, il faut veiller à l'application parce que ça risque d'être compliqué, hein, en un mot.
En tout cas, il faut vraiment veiller à l'application. Tout cela aussi, je dis, ça dépend aussi de nous autres. Nous devons aussi s'impliquer pour que cela puisse se réaliser parce que nous avons constaté aussi le problème, c'est pas seulement au niveau des services de l'État, mais il y a aussi certains travailleurs qui sont dans le bateau ou soit qui sont dans des ports qui sont en complicité avec les services de l'État. Donc, pour cela, nous tirons aussi attention à tous ces agents-là qui puissent faire respecter cet arrêté et ne pas travailler en connivence avec tous les services de l'État qui sont sur le terrain.
Bienvenue Marie Bakoumania, directeur de rédaction en charge de l'économie et de l'investigation au groupe de presse Mediaset. Comment vous analysez cette situation?
Oui, déjà, il faut féliciter ceux qui ont pris l'initiative de supprimer. J'espère que c'est une suppression parce que dans l'intitulé tel que je l'avais lu, on a parlé d'une suspension. Moi, je pense que c'est effectivement une suppression de toutes ces taxes qui n'ont légalement jamais existé. Et je suis même heureux par rapport à la réponse du conseiller. Je venais avec l'idée que c'était une dizaine de taxes qui subsistaient encore. Mais là, je fais le calcul et c'est 59 taxes. On en a supprimé 38. Il en reste 21. Hein, je me pose toujours cette question de ces 21 taxes. Comment est-ce qu'on peut encore les justifier? Parce que nous savons que les services habilités à prester au niveau des frontières, les gouvernements l'ont martelé régulièrement, ils sont au nombre de 4. Les gestionnaires de ports ou aéroports, la Direction générale des migrations, les services d'hygiène et la douane. Mais je ne pense pas que ces 4 services percevraient 21 taxes. Et si tel serait le cas, on comprend aisément pourquoi un sac de cossé de manioc peut coûter 10 dollars, l'équivalent des 10 dollars au point de production ou même moins, et que au niveau de la consommation ici, au niveau des centres de consommation, on arrive à des prix hors de portée. La grande question que tout le monde se pose et que tout le monde devrait se poser, c'est comment on en est arrivé là. Et si on en est arrivé là, c'est parce que des individus se sont levés un matin et ils ont instauré des taxes. Ça veut dire l'absence de l'État. L'État est absent là où on devrait le retrouver. Et aujourd'hui qu'on a supprimé des taxes, curieusement, on n'apprend pas qu'il y a des actions judiciaires qui sont intentées à l'encontre de ceux qui avaient initié tous ces taxes. Les gens ne se sont pas levés un matin, ils se sont présentés dans des ports et percevoir des taxes. Il y a certainement des autorités qui ont donné des autorisations. Qu'est-ce qu'on en fait? Tant qu'il n'y aura pas la sanction, rassurez-vous, Alain, rassurez-vous que demain, le nombre de taxes va encore s'augmenter. Le nombre de taxes seront encore créées par d'autres personnes qui seront inspirées par des esprits venant de quel horizon, il va encore créer d'autres taxes et c'est la population qui continuera à en pâtir. Donc tant que on ne sanctionnera pas, l'effet dissuasif n'existerait pas, rassurez-vous, nous allons retomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes travers. 162 taxes, comment est-ce que, je reviens encore à cette question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Si on en est arrivé là aussi, c'est parce que, il faut reconnaître que parfois les fonctionnaires ne sont pas pris en charge normalement par l'État qui devait les parler, trésor public. Certains ne sont pas payés et ils se font payer eux-mêmes. Et même les responsables à certains niveaux, notamment au niveau des provinces, les responsables reçoivent des rétributions qui viennent de ces pratiques-là.
Et pour des opérations retour.
Bien sûr, pour y mettre un terme. Il ne suffit pas de prendre un arrêté interministériel. La crainte de l'association des transporteurs, et c'est une crainte justifiée, c'est aussi une crainte de nous, consommateurs. Il ne suffit pas de prendre ces mesures parce que ça risque d'apparaître comme des effets d'annonce. On nous a déjà rabattu des oreilles qu'aux frontières, il y avait 4 services. On se rend compte que l'État lui-même... laisse faire 21 autres taxes qui ne seront pas perçues par ces mêmes services. Donc il existerait d'autres canaux par lesquels les contribuables, les pauvres Congolais seraient encore appelés à mettre la main à la poche de manière illégale. Tout cela n'est possible, on peut mettre fin à tout cela quand on veut vraiment, on veut réellement restaurer l'autorité de l'État dans tous les secteurs. J'encourage qu'on puisse commencer là où on a commencé, mais je me dis on doit le faire avec détermination et le faire avec suivi pour que des pareilles situations ne se répètent pas.
Nous prenons pour vous, bienvenue Marie Bakoumania, cette question qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Désiré Kiosé Bambo de Goma, province du Nord Kivu. La suppression des perceptions des taxes illégales est un ouf de soulagement pour les victimes, mais après quelques jours, ces taxataires inciviques ne vont-ils pas reprendre leur sale besogne, car nombreuses décisions du gouvernement congolais n'ont pas de suivi.
Vous l'avez dit également, il y a Aimé Tchirinda de Bukavu Sud Kivu qui revient sur l'arrêté qui dit ne nous souvenons-nous pas de l'arrêté de l'ordonnance limitant quatre les services dans les aéroports et frontières dont la mise en application pose problème jusqu'à ce jour. N'est-ce pas là le tendon d'Achille de la RDC?
Ben justement, le tendon d'Achille, c'est l'impunité. Hein. On ne punit pas ceux qui commettent des fautes dans la gestion. La sanction, elle doit être positive, elle doit également être négative. Lorsqu'on est pris la main dans le sac tel que là, on devrait avoir des procès en cascade. On devait avoir des procès en cascade. On n'en a pas. Est-ce que le procureur général de la République s'est mis en branle pour se saisir de ce dossier qui est flagrant? On a affamé des gens avec ça. On a affamé des consommateurs congolais avec ces pratiques-là. On a fait en sorte que les denrées alimentaires coûtent excessivement cher. Moi, je pense que lorsqu'on est face à une situation pareille, on ne recule plus et on sanctionne. Tant qu'il n'y aura pas sanction, je le dis et je le répète, je persiste, on aura peut-être une autre émission. Dans une ou deux ans, on aura des taxes qui se seraient ajoutées.
Monsieur le conseiller Daniel Boulungidi, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Je vous appelle depuis la province orientale à Kisangani. Au moment où le gouvernement nous fait croire toujours qu'il n'y a pas de moyens pour améliorer beaucoup de choses, surtout les sociales des Congolais, je trouve cette décision de mascarade. Est-ce que ce n'est pas un maquillage pour augmenter les montants des taxes restants ou créer d'autres taxes avec changement de nom? Croire à cette décision, au moment où les services spécialisés de l'État qui devraient surveiller l'exécution de cette mesure sur terrain sont mal rémunérés, les noms des taxes suspendues ne sont pas distribués à la population des villes jusqu'au village, je trouve cette décision qui n'est pas la première dans ce pays comme une goutte d'eau dans l'océan.
Réaction, monsieur le conseiller.
Je pense que la liste des taxes qui sont reprises, sur l'arrêté est bien claire. Évidemment, ça va demander quand même qu'on puisse faire une certaine vulgarisation pour qu'on sache un peu effectivement en quoi ça consiste. Il ne faudrait pas croire que quand on a pris la décision pour supprimer sur les 59, les 38, donc les 21 taxes qui sont restées, c'est que ce sont des taxes peut-être qui vont peut-être avoir une autre dénomination pour essayer un peu de recadrer les choses. Non, sur les 21 taxes qui sont restées...
Comment se justifie-t-elle? C'était aussi la question de Bienvenue Marie Bakoumania.
Non, ça dit que c'est comme on vient de le dire. Moi, j'ai reçu hier, par exemple, un tenancier portuaire qui est arrivé au bureau. Hein, ils avaient une discussion au niveau du port. Ils se disent, mais écoutez, voilà, nous avons l'arrêté, mais on a dit qu'on n'a pas vu la taxe sur le contrôle animal et végétal. Ça ne se trouve pas dans la liste. C'est comme ça que nous sommes en train de percevoir ça. Mais quand vous regardez lors des travaux qu'on a eu ensemble avec les comités professionnels des transporteurs, des armateurs, ils ont bien dit que cette taxe, effectivement, on reconnaît que c'est une taxe qui n'est perçue qu'au niveau de la douane, au niveau des importations. Ce n'est pas au niveau de la navigation intérieure ici. Donc, on ne peut pas la reprendre dans la liste des taxes qui doivent être supprimées. On ne peut pas la supprimer parce que c'est une taxe qui existe, mais seulement mal appliquée. On ne peut pas l'appliquer dans la navigation intérieure, mais c'est appliqué au niveau de la navigation maritime, au niveau des ports. Donc ça, on ne peut pas la supprimer, mais ne pas, c'est la liste de supprimer. Mais ça fait partie des 59 taxes qui ont été identifiées par les armateurs. Donc il ne faudrait pas qu'ils croient que quand on prend ces dispositions, qu'on prend ces mesures, qu'on s'arrête là. Je pense que comme c'est plusieurs services qui sont impliqués, et que l'arrêté est bien clair, c'est bien clair que chaque service va prendre des dispositions pour pouvoir faire appliquer ces mesures. Au niveau, par exemple, du ministère des Transports, nous savons déjà que son Excellence, Monsieur le ministre, a pris des dispositions pour que nous fassions d'abord une certaine conscientisation, une sensibilisation ensemble avec les armateurs. On va organiser une réunion avec les armateurs pour qu'on explique effectivement les taxes qui sont restées, qui ont été supprimées. Ensuite, on mettra en place des dispositifs, un système d'information, parce que c'est plusieurs services. En fait, c'est les transports qui souffrent de tout ça. Mais on mettra en place un système d'information de telle sorte que nous puissions avoir à tout moment toutes les informations en ce qui concerne les perceptions qui sont faites par chaque service concerné par la suppression de ces taxes. Parce que c'est les transports qui les supportent. Mais au niveau des transports, je pense que les services attitrés pour faire appliquer cela sur le terrain, ce sont les commissariats fluviaux et lacustres. Et ces commissariats fluviaux dépendent de la direction de la marine. Déjà, l'année passée, le gouvernement a mobilisé des ressources pour pouvoir renforcer les capacités des commissaires fluviaux et lacustres, et ils sont bien instruits en ce qui concerne ces prélèvements, ces taxes. Donc, dès que, comme on a eu cet arrêté ici, je crois que des décisions seront prises pour pouvoir les instruire, pour que les contrevenants, ceux qui vont faire appliquer les taxes qui ont été supprimées concernant les transports, eh bien là, ils seront sanctionnés. Mais entre-temps aussi, je crois qu'il y a des mesures qui ont été prises pour pouvoir faire déjà la mise en place des commissaires fluviaux qui ont été formés, parce que ceux qui sont actuellement sur place, ce sont des commissaires fluviaux. Certains n'ont pas été renforcés, n'ont pas participé à cette formation. Donc, on va prendre des dispositions pour que réellement qu'on fasse la mise en place des secteurs de commissaires fluviaux qui ont réellement cette formation bien attitée, renforcée lors de cette formation qui a eu lieu l'année passée.
Ces commissaires fluviaux ont été formés, est-ce qu'ils sont bien payés?
Bon, ça c'est pas un problème qui nous concerne, parce qu'ils sont pas bien payés ou pas payés, mais aujourd'hui je pense que c'est un problème de paiement qu'on parle, parce que ça, le problème de paiement, ça concerne un problème général. C'est un problème général, c'est l'administration, le gouvernement s'emploie pour pouvoir trouver une solution dans ce sens, mais le paiement, ça, je crois que ça ne fait pas l'objet de notre mission actuellement.
Voilà, Didier Moukoma, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Depuis Kinshasa, la suppression de ces taxes est à saluer du fait de leur caractère illégal. Et l'État congolais doit cependant restituer aux armateurs ce qu'il a déjà reçu indûment, car le caractère définitif en matière fiscale ne se justifie pas dans les cas dont question ici. En plus, le FONER doit également remettre à la régie des voies maritimes ou à la régie des voies fluviales, selon les cas, ce qu'il a reçu indûment. Par ailleurs, l'on doit palper l'impact de cette mesure sur la réduction des prix des biens et produits sur les marchés.
Réaction Didier Moukouma.
Oui, il est vrai que il y a beaucoup de taxes aussi qui restent aussi qu'on doit quand même suspendre, disons pas suspendre, qu'on doit supprimer. La taxe de Foner dont tu viens de parler, comme vous le constaterez, Foner, il s'agit d'un fonds national d'entretien routier.
Qui n'a rien à voir avec le fluvial.
Mais dans les carburants que nous achetons, il y a un prélèvement de la part de ces fonds qui est rétribué à ces services, à ces fonds nationaux d'entretien routier, que la régie des voies fluviales, qui est service qui s'occupe des dragages et de balisage du fleuve Coco, ne perçoit rien. En plus de cela, de l'autre côté, nous continuons toujours aussi à payer une taxe pour la régie des voies fluviales. Et cela ne permet pas toujours à ce que les travaux soient bien réalisés. À part même la taxe de Foner, nous avons aussi par exemple la TVA. Ça, c'est un problème qui concerne aussi tous les secteurs de transport. Comme vous le savez, la TVA, c'est une taxe qui est déductible. Mais pour l'instant, avec la loi actuelle, dans les transports fluviales, nous ne savons pas déduire la taxe, la TVA. Ce qui fait aussi un manque à gagner pour nous. Nous payons le carburant un peu plus cher. Au contraire, en tant que service, en tant que secteur porté comme celui-ci, un secteur qui a un caractère tellement très social, on devait quand même bénéficier des avantages, des subventions, mais au contraire, nous sommes en train de payer plus cher que les autres. Ce qui veut dire, les 1 litre que j'achète pour mettre dans mon bateau coûte le même prix que vous achetez pour mettre dans votre voiture. Donc, il n'y a pas d'avantage, et en plus de cela, on nous ajoute encore d'autres taxes. On a aussi, par exemple, la taxe rémunératoire annuelle. C'est une taxe qu'on paye au niveau du ministère de l'Environnement. Nous nous sommes battus pour cette taxe pour démontrer que le secteur des transports fluviaux n'était pas concerné par cette taxe parce qu'il n'était pas repris dans les établissements dont gérait un salibre incommode. Et juste après, je ne sais pas par quel miracle, en 2012, il y a une loi qui est sortie, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ce secteur doit payer ses taxes à travers une loi. Donc ce sont des taxes qui ont été mal conçues, mais reprises par la loi, et qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment maintenant les supprimer par un arrêté. Il faut une autre procédure un peu spéciale pour que nous puissions arriver à supprimer toute cette taxe-là.
Avant de continuer, Didier Mukoma, il y a Papi Kassema que nous avons suivi tout à l'heure qui demandait par exemple que le gouvernement congolais puisse restituer tout ce qui avait déjà été perçu par rapport à ces taxes qui ont été supprimées.
Bon, justement, nous, ça sera aussi un souhait de ma part. Ben, il faut voir maintenant, il faut poser la question.
La matérialisation paraît très compliquée.
Parce que nous avons déjà difficile à faire appliquer les instructions de cet arrêté. Donc, je pense que ça, c'est un problème au niveau du gouvernement. Mais sinon, pour moi, ça sera la bienvenue.
Et il y aurait aussi des taxes qui seraient doublement payées ici à Kinshasa et en province.
Mais justement, c'est ça le problème. Un bateau, il y a la taxe qu'on appelle taxe d'accostage. C'est comme nous le disons, l'accostage c'est quoi? C'est un simple stationnement. C'est comme vous avez votre voiture, vous allez garer quelque part dans un parking d'inalimentation, dans un parking peut-être, je ne sais pas, devant l'hôtel de ville. Alors ce sont des parkings qui ne sont pas payants plutôt. Tandis que l'hôtel de ville par exemple ici, il a des parkings qui lui appartiennent et qu'il aménage pour lesquels il fait payer. Dans notre cas, nous avons nos propres ports avec nos propres quais. Et nous accostons dans nos propres ports et l'État nous fait payer à travers la province la taxe d'accostage. Ce qui n'est pas normal. C'est comme aujourd'hui, comme je suis venu ici chez vous avec ma voiture, et l'État vient m'a facturé parce que je stationnais dans votre parking. Ce qui n'a pas de sens. Et cette taxe, elle est payée dans toutes les provinces. Donc, un bateau qui quitte ici Kinshasa pour, par exemple, Kisangani, il paie cette taxe d'accostage ici à Kisangani et à Kinshasa. Dès qu'ils arrivent à Bandaka, il paie cette taxe d'accostage. Il arrive à Lissala, il paie la même taxe d'accostage. Il arrive à Bumba, la même taxe d'accostage. Il arrive à Kisangani, la même taxe d'accostage. La taxe d'embarquement sur la marchandise, c'est la même chose. Vous avez une marchandise ici à Kinshasa. Vous embarquez à bord d'un bateau. Prenons un exemple d'une marchandise qui va, par exemple, jusqu'à Kindu. Vous payez la taxe d'embarquement ici à Kinshasa. Vous arrivez à Kisangani, vous débarquez pour mettre dans un camion afin d'acheminer ça jusqu'à Ubundu. Vous payez la taxe de débarquement. Vous devez encore embarquer dans les camions pour aller à Ubundu. Vous payez la taxe d'embarquement. Vous arrivez à Ubundu, la même opération. Vous allez jusqu'à Kindu pour débarquer, la même opération. Donc, la même marchandise, vous voyez qu'elle paye plusieurs taxes. Sur un même produit.
Alors, bienvenue Marie Bakoumania. Avez-vous reçu satisfaction? Le conseil a parlé de 21 taxes restantes, mais Didier Mukoma pense qu'il y en a plusieurs qu'on doit continuer à supprimer.
Oui. Il faudrait pas non plus dire qu'on doit tout supprimer. L'État doit vivre. L'État tire ses ressources auprès des contribuables que nous sommes, auprès de ceux qui produisent des richesses. Hein, il faudrait pas non plus se dérober. Puisque monsieur Didier en a parlé, par exemple la taxe sur la pollution, ben les bateaux polluent les eaux. Les bateaux polluent les eaux avec les dégagements des résidus des carburants, des huiles, etc. Les bateaux polluent et il faut que le pollueur paye. Le pollueur doit payer pour qu'il y ait des réparations. Je pense que une taxe pareille, moi, de mon point de vue, on ne devrait pas la supprimer, on devrait absolument la garder. Je prends également le cas il a énuméré ce qui est intéressant. Ce sont des taxes vraiment à supprimer et à supprimer absolument. Hein, c'est des embarquements, débarquements. Ici même sur le beach Ngobila ici, lorsque vous voulez traverser à Brazzaville, il y a une taxe. Finalement, on ne sait pas faire la différence entre la manutention et la taxe, et ça fait amalgame. Et c'est comme ça que, parce qu'il n'y a pas de clarification possible, c'est comme ça que les usagers ils tombent sous le panneau et des personnes se mettent à les rançonner. Et difficilement, les remboursements, c'est quasi impossible. D'autant plus que ça n'allait pas dans les caisses de l'État. Cet argent était consommé par des individus. Hein, l'État ne connaissait même pas l'existence, officiellement, l'État ne connaissait pas l'existence de ces pratiques, hein, qui est l'œuvre de ses propres préposés.
Et hein. Donc, difficile de rembourser.
Non, le remboursement est impossible. Le remboursement est impossible. Comment est-ce qu'on peut rembourser quelque chose qu'on n'avait pas consommé soi-même, qu'on n'avait pas perçu soi-même? Et même quand on pousse la logique très loin par rapport à la suppression, hein, l'État a supprimé quoi? L'État a supprimé les vides. Parce que ces taxes n'ont pas été instituées par une loi ou un arrêté ou quoi que ce soit. C'était des individus qui s'étaient organisés. C'est pourquoi moi je dis, l'efficacité de cette mesure n'est possible qu'avec la sanction.
S'il n'y a pas de sanctions, on peut discourir ici, on peut prendre plusieurs arrêtés, même des ordonnances présidentielles, ça ne changerait pas. L'efficacité ne peut tirer sa force, l'efficacité de cette mesure ne peut tirer sa force et son effectivité sur le terrain que s'il y a la sanction. Et la sanction ne doit pas commencer aujourd'hui seulement avec ceux qui vont réinstaurer les taxes. Ça doit commencer par ceux qui l'avaient instauré illégalement avant. Parce que si déjà ils ont obtenu une prime, les autres vont se dire malignement, ils vont continuer à œuvrer, ils vont continuer à traîner les pieds.
Et c'est depuis 97
que ça existe. Oui, et malheureusement aussi les armateurs, 7000 dollars par voyage, mais je me dis, ils en ont comme ça pour gaspiller. Ils savent que c'est illégal, mais ils donnaient quand même, c'est quand même difficile à comprendre tout cela, que nous tous, nous participions à la jungle. C'est nous tous, c'est-à-dire nous armateurs, nous consommateurs, nous participions à cette jungle voulue par des individus. Et des individus qu'aujourd'hui, l'État semble blanchir.
Monsieur le conseiller Daniel Boulungidi, il nous reste moins de 10 minutes pour terminer l'émission. Robert Kabego de Bukavu, au Sud Kivu, pose la question pratiquement, quelles sont les stratégies mises en place par le gouvernement pour assurer l'application de ces mesures et le respect par tous les bénéficiaires?
Je pense que, en termes de stratégie, vous savez que ce sont des taxes qui dépendent de plusieurs ministères. Mais déjà au niveau de, il faut qu'il y ait aussi, il faut d'abord anticiper peut-être une compréhension de ces mesures, de ces taxes qu'on a supprimées, leur applicabilité, l'applicabilité de cet arrêté. C'est comme ça que, en principe, il est prévu déjà dans le plus bref délai une réunion avec tous les armateurs et tenanciers portuaires au niveau du secrétaire général qui est chargé d'appliquer ces mesures pour qu'on fasse d'abord compréhension des taxes qui ont été éliminées et puis qui ont été supprimées.
Est-ce que cela ne devrait-il pas se faire en amont?
Non, c'est-à-dire que nous avons eu les informations des armateurs. Les informateurs nous ont donné, nous avons travaillé ensemble avec eux, nous avons transmis au gouvernement pour faire voir, voici les rapports qui se dégagent, concertation ministère des Transports avec les armateurs, et sur base de ça, il y a eu cet arrêté. Maintenant, il faudrait maintenant qu'il y ait une restitution, une opération inverse pour les appeler, pour dire, voici le résultat qui a été couronné au terme de nos travaux, et sur base de ça, maintenant, voici ce qui a été supprimé. Il faut qu'il y ait une compréhension, comme je venais de le dire, quelqu'un qui vient dire, mais pourquoi on n'a pas supprimé la taxe sur le contrôle animal et végétal. Mais ça, c'est pas une taxe qu'on peut pas supprimer. C'est une taxe qui est mal affectée, donc c'est une mauvaise application de cette mesure, de cette taxe. Donc il faut qu'on explique aux armateurs, qu'on explique aux tenanciers portuaires, comme ça on a la même compréhension des faits, on a le même entendement. Quand maintenant ceci est fait, au niveau de chaque ministère qui est concerné par la décision, il faut qu'il prenne des dispositions qui s'imposent pour que dans l'application, qu'on puisse mettre en place dans un plus bref délai un système d'information pour essayer de voir comment l'application de ces mesures est faite. Mais entre-temps, au niveau du ministère des Transports déjà, nous avons un partenaire qui est la CICOS, qui a déjà avec qui on va travailler pour mettre en place ce qu'on appelle l'observatoire des barrières non physiques et physiques pour commencer maintenant à faire le suivi sur le terrain. Mais ça, c'est évidemment une action qui sera à court, à moyen et long terme.
Didier Moukoma, êtes-vous rassuré par toutes ces mesures sous forme de stratégie?
Justement, nous avons l'assurance parce que c'est ça notre souhait. Ensemble, je pense que nous allons essayer de faire un effort pour que toutes ces mesures soient mises en application. C'est comme il a dit tout à l'heure, nous allons organiser des réunions ensemble avec tous ces services concernés et aussi les autres collègues des secteurs, disons, des tenanciers des ports, pour que nous puissions avoir une même compréhension des textes. Parce que le problème aussi ici, c'est l'interprétation des textes. Chacun interprète les textes de sa façon, pour s'attirer les profits de son côté. Par exemple, je vous ai donné l'exemple de la taxe d'expertise. Normalement, c'est une taxe qui est perçue au niveau de l'importation et de l'exportation. Mais ici, comme il s'agit d'une taxe de l'agriculture, eh bien, les agents de l'agriculture se permettent de percevoir cette taxe. Et c'est seulement au niveau des ports et non partout ailleurs. Et pourtant, les mêmes produits, ça peut se déplacer, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit à travers des camions, soit à travers les bateaux, mais la compréhension, l'interprétation des taxes pose un problème. Et aussi, le problème aussi qui se pose, c'est les conflits de compétences. il y a certains gendarmes de l'État qui n'ont pas, qui ne respectent pas, qui n'obéissent pas aux ordres de leur hiérarchie. Vous trouverez par exemple un commissaire fluvial qui dépend directement de, du directeur de la marine, de la direction de la marine, mais il n'a aucune instruction de à recevoir de son directeur de la marine. Il est en Mbandaka, il est par exemple à Lissala. En tout cas, il n'a rien à voir avec la haute direction. Voilà. Ça, c'est un problème aussi qui est très capital.
Et en guise de conclusion, Didier Mukoma, parce que l'émission va se terminer, et donc vous pensez qu'il faut espérer?
Oui, nous avons l'espoir parce que nous avons commencé très longtemps et jamais, comme je vous ai dit tout au début, là, nous n'avons jamais reçu quand même de résultats à ce niveau, c'est-à-dire arriver à supprimer même une taxe. Mais aujourd'hui, nous en avons 38 sur le 59. C'est déjà quand même un grand pas et que nous félicitons.
Bienvenue Marie Bakoumania. Vous avez également suivi le conseiller Daniel Boulungidi énumérer un certain nombre d'éléments pour la mise en application de cet arrêté. Est-ce suffisant?
Oui, c'est rassurant de constater que il y a une certaine reprise en main de l'État quand on ose quand même suspendre des taxes qui officiellement n'existait pas et qu'on prend des lunettes pour les voir finalement parce que c'était visible auprès des autres, c'est encourageant. Moi je suis aussi d'avis que la refondation de l'État c'est la clé pour résoudre tous ces problèmes qui se posent à la nation. Nous devons refonder l'État et on refonde l'État justement à travers des mesures telles que celle-là. On refonde l'État justement à travers la détermination dans la mise en application des mesures telles que celle-là. Je crois que techniquement, tel que c'est présenté, ce sont des solutions qui peuvent permettre à ce que dans les jours à venir, nous puissions souffler et que nos assiettes puissent en ressentir un coup plutôt positif.
Alors, un conseil un conseil ou une proposition, à part mettre fin à l'impunité que vous avez évoquée tout à l'heure, un conseil aux décideurs pour que les choses puissent aller de mieux en mieux.
Ben écoutez, le plus grand conseil que je pourrais prodiguer aux autorités, c'est qu'ils puissent eux aussi avoir des instruments qui permettent de travailler. Ces taxes-là ne sont pas appliquées sur l'ONATRA, vous rendez compte, sur l'ex-ONATRA. Ils ne payent pas ces taxes-là parce que si l'État dispose des moyens, les privés vont prendre l'exemple sur l'État. Lorsque l'État est désarmé dans un secteur stratégique comme celui-là, c'est normal que les privés qui viennent soient à la merci des aventuriers comme on a vu là.
Alors il y a, bienvenue Marie Bakoumania, Joël Makonya de Bougne en province orientale qui dit, après la suppression de 738 taxes, vous verrez, il y aura encore la naissance de 76 autres qui seront illégales.
Non, nous pensons que cette fois-ci serait la bonne. Nous espérons que cette fois-ci est la bonne. C'est pourquoi nous insistons toujours sur l'impunité. Nous revenons, nous martelons sur l'impunité. L'État doit savoir que lorsqu'il n'y a pas sanction, les pratiques prohibitives, les pratiques annihilatives, des différentes énergies auront toujours la peau dure. Ils vont toujours subsister parce que c'est dans les pratiques négatives que des inciviques trouvent un terrain fertile. Lorsqu'on est dans un pays où on ne punit pas des gens, c'est un terreau favorable à la corruption, un terreau favorable à du gangstérisme, comme on a vécu là, des gens qui se lèvent un matin, instaurent des taxes, les perçoivent au vu et au su de tout le monde et d'autres qui acceptent de payer de bonté des cœurs. De bonne foi, ils payent parce qu'ils sont obligés de payer. Je pense que tout ça, c'est la conséquence de l'impunité. Et l'impunité, ça ne... La justice, un pays qui n'a pas de justice, c'est un pays qui ne peut pas prétendre à l'émergence, c'est un pays qui ne peut pas prétendre à une certaine requalification du vécu quotidien de ses citoyens.
Monsieur le conseiller Daniel Boulungi dit, en guise de conclusion, qu'est-ce que tous ces armateurs, cette population qui est en train de vous suivre peut retenir?
Je crois que le gouvernement s'attelle à mettre en place un environnement pour que améliorer le climat des affaires. Et ce secteur qui est pratiquement où il y a moins d'intérêt pour beaucoup d'opérateurs, nous sommes en train de déployer des efforts pour pouvoir l'assainir afin qu'il puisse être productif et qu'il puisse attirer beaucoup d'opérateurs économiques. C'est dans ce sens-là que toutes ces mesures sont prises, mais je crois qu'on ne baissera pas les bras parce qu'il y a beaucoup d'autres actions qui sont prévues pour essayer encore de donner beaucoup plus d'impulsion à ce secteur qui doit constituer pratiquement le socle pour le développement de notre pays.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous la présenter. Merci à vous de votre attention. Restez branchés sur Radio Capi. Au revoir.